coup double à l'occasion d'un vernissage au lieu d'art La Halle à Pont-en-Royan. Deux artistes, deux propositions. On débute avec Antoine Camus. Bonjour Julia.
Bonjour.
Et j'en profite pour saluer aussi Antoine Camus. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Voilà, dans quelques instants, on va vous questionner en ce qui concerne votre proposition au lieu d'art pour ce début d'année. Mais auparavant, peut-être repréciser le cadre de ce qui a généré cette exposition, notamment avec bien différents projets, des institutions qui se sont emparées de la question après la crise sanitaire, Julia.
Oui, en effet, l'exposition d'Antoine, elle est présentée aujourd'hui, donc un tout début de l'année 2024, ici à La Halle, dans le Vercors. Mais c'est une exposition qu'Antoine a eu l'occasion de réaliser suite à plusieurs mois, voire plusieurs années de recherche. Et tout ça rendu possible dans le cadre d'un programme de soutien à la création qui s'appelle Monde Nouveau, qui est, un des programmes les plus ambitieux que le ministère de la culture. Antoine a été lauréat de ces programmes parmi d'autres projets transdisciplinaires. Donc évidemment, pour Antoine, ça s'agit des arts visuels. Il y avait, je pense, à la base, surtout l'idée d'inciter les créateurs à prendre le temps de recherche, de pouvoir pousser un peu plus loin leur projet en cours. Moi, donc, j'ai rencontré Antoine ici à Pont-en-Royan même, parce qu'il y habitait jusqu'il y a quelques mois. Il n'est pas bien loin, hein. Il est resté dans le Royan quand même. Rassurez-vous, auditeurs et auditrices de Radio Royan. Et donc, effectivement, c'était à la base un projet qui était très expérimental, en tout cas vraiment des recherches des terrains. Et à fur et à mesure de nos échanges, j'ai vu quand même qu'il y avait des formes plastiques qui étaient très intéressantes, qui émergeaient. Et donc, en fait, si on veut, l'invitation à produire une exposition est arrivée à contrario de comment on fonctionne d'habitude, c'est-à-dire on invite un artiste et on imagine une exposition ensemble, mais là c'était plutôt, il y a beaucoup de matière, beaucoup de recherches, en fait on imagine une exposition dans nos salles à la fin de ce processus. Et donc c'était presque de manière extrêmement spontanée en fait qu'on a réfléchi ça. D'accord. Et c'est, enfin, en tout cas pour moi, pour nous, c'est un vrai plaisir d'avoir des formes qui sont à la fois intéressantes graphiquement, qui portent un message, Antoine en parlera mieux que moi, mais vraiment très engagé, très radical, et comment justement la forme artistique puisse, comme il arrive à véhiculer certains messages d'une manière qui touche vraiment à la sphère de vie sensible.
Il y avait une notion de transition écologique dans le cadre de ce programme lié aux créations, ou pas spécifiquement?
Il y avait une idée de, entre guillemets, de, quand on dit, on parlait du monde d'après. Mais après, j'ai l'impression, en regardant un peu tous les projets qui étaient lauréats, qu'il y a forcément une tendance comme ça qui émerge. Mais c'est, à mon avis, tout simplement aussi, c'est des questionnements. C'est un débat d'idées actuelles et les créateurs, les créatrices s'en parlent de ça. Donc je ne sais pas dans quelle mesure l'un arrive avant ou c'est plutôt, comment dire, un miroir des temps, quoi.
Antoine Camus, donc vous, votre atelier, il est plutôt vaste, hein, parce que contrairement à beaucoup de plasticiennes, plasticiens, vous emparez d'un vaste monde autour de vous. Et c'est une démarche, on peut dire, artistique, scientifique, puis militante. Tout ça est contenu dans cette proposition.
Oui. En fait, moi, j'ai été formé aux arts appliqués, donc j'ai fait des études de design. Et je crois que mon point de départ, il est plutôt politique, j'ai envie de dire. Quelque chose de... Moi, à titre personnel, je suis engagé sur des questions écologiques à différents endroits, mais aussi en local. Et j'avais envie d'essayer d'investir des choses que je vois ici et aussi de mes outils artistiques, de tenter d'essayer de les investir dans un cadre un peu différent. C'est pour ça que j'ai répondu à cet appel à projet. Et donc ce qui a émergé, c'est une sorte de tentative de croisement entre, oui, à la fois des savoirs naturalistes, des outils ou des productions artistiques et un rapport un peu politique. Et ça s'est incarné dans la lecture d'un livre de Léna Ballot et d'Antoine Chopot qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». Et qui raconte, qui se sert d'exemples d'alliances entre des animaux, des végétaux et d'autres non-humains avec des humains pour lutter contre des grands projets inutiles ou des projets destructeurs écologiquement parlant.
Voilà, c'est les alliances écologiques, hein, qui est un peu le cœur de cette exposition. Est-ce que le côté purement plastique s'est formalisé au moment où vous avez entrepris ce projet avec Julia, ou déjà c'était avant, vous aviez quelques formes en plus de votre démarche militante et puis scientifique?
Je crois qu'il y avait quand même cette envie d'investir l'écriture, de juste faire des textes argumentatifs, de faire de la vulgarisation technique, théorique, ça c'était là. Il y avait aussi une volonté d'essayer de le documenter d'une manière un peu sensible. Donc l'idée de faire des photographies, elle était présente assez au début. Et je pense qu'il y avait... Tout ça devait forcément s'incarner un peu dans des objets. Donc il y avait, ça s'inscrit aussi dans une tradition militante de production de banderoles, de production d'étendards, des espèces d'objets un peu visuels comme ça qui représentent, qui peuvent porter des messages. Mais forcément aussi le fait d'arriver et de rencontrer l'équipe du Centre d'Arlal, ça a amené vers, je pense, plus d'exigences ou plus de formalisation de ce côté-là.
Alors beaucoup de travail aussi en extérieur sur le secteur du Royan, notamment observation, expérimentation, ce qui a un petit peu mûri cette exposition.
Ouais. Oui, effectivement. En fait, moi, à la lecture de ce livre, je trouvais ces exemples d'alliances interespèces très intéressants et très stimulants en termes d'imaginaire. Donc je voulais essayer de m'emparer de ces exemples-là et de dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait... pas forcément reproduire, mais partir de notre point de vie, de point de vue, qui est du coup, moi qui suis, disons, amateur naturaliste, qui ai quelques connaissances, mais vraiment auto-formé et pas du tout très exhaustif, quoi. Enfin, c'est vraiment le tout début. Comment est-ce que ce serait possible, avec du temps, de tenter de créer des alliances dans le Royan Vercors ou à une échelle plus large. Et du coup, il y a eu tout un travail d'enquête de terrain, de parcours pour essayer de voir quels seraient les contextes les plus appropriés. En fait, au final, c'est pas, je dirais, c'est dans un périmètre plus large que le Royan Vercors, mais c'est aussi, je dirais, le rapport aux espèces. Il est quand même vraiment lié à un milieu qui est celui de très basse montagne, vallée montagnarde, et aussi un milieu rural et agricole, quoi.
Qui nous laisse aussi rebondir sur le titre de l'exposition, « Nuisibles de tous les milieux, unissez-vous ». Vous voulez bien nous en parler ?
Oui. Alors, « Nuisibles de tous les milieux, unissez-vous », donc oui, c'est le titre de l'exposition. En fait, ça fait référence au texte, à un slogan qui était présent dans le manifeste du Parti communiste, qui était « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et donc, une espèce de continuité dans cette volonté de croiser des questions politiques et des questions plus sensibles, naturalistes. Il y a un remplacement du mot « prolétaire » par « nuisible » et un remplacement du terme « pays » par « milieu ». Justement pour essayer de créer un parallèle entre des façons dont on peut hiérarchiser des espèces vivantes et des façons qu'on a aussi, l'État, la société a de hiérarchiser, de classer et de traiter différemment les humains, quoi.
Donc il y a vraiment deux contextes politiques, on pourrait dire distincts, mais finalement qui se rejoignent entre le côté très nature, les plantes, leur interaction et puis la vie humaine.
Oui. En fait, moi j'aimais bien ce terme de nuisible justement parce que en fait je voulais le rendre, à voir sa dimension vraiment politique, c'est-à-dire que la notion de nuisible, elle n'existe pas vraiment en écologie, c'est-à-dire pas en écologie politique, mais en étude des milieux. Parce qu'il n'y a pas de... En fait, toute plante, tout animal remplit un rôle dans une niche en général. Donc il peut y avoir des déséquilibres quand il y a des espèces qui viennent de loin, qui sont apportées, mais du coup, vraiment quasi systématiquement par des activités humaines. Mais en fait, ce qu'on appelle nuisible, souvent, c'est des espèces qui sont soit contraignantes ou qui résistent à certaines activités humaines, qui peuvent être perturbantes pour des questions de confort, simplement même pour des questions économiques et pour un certain ordre et une certaine exploitation du territoire et une économie, quoi.
Ouais, on constate d'ailleurs que certaines espèces nuisibles ont été, entre guillemets, déclassées. C'est parfois aussi la connaissance qui fait son chemin.
Oui, effectivement, c'est vrai que, je pense au putois, par exemple. Enfin, je ne sais plus exactement quel est son statut aujourd'hui. Là, c'est pas une espèce qui est traitée dans l'exposition, mais on voit qu'au gré des choix, des décisions, des études, il y a des espèces dont l'extermination était obligatoire à une époque, donc, qui aujourd'hui sont protégées. Donc, il y a vraiment... une subjectivité en fait de ce classement qu'il s'agit de remettre en cause et de discuter un peu plus collectivement, quoi.
Trois lieux qui symbolisent votre recherche action. On peut parler un petit peu de l'installation, notamment la première salle avec un déploiement de banderoles. Ça nous interpelle quand on arrive.
Oui, moi j'ai été très marqué et inspiré par les productions textiles de militantes écoféministes qui du camp pour la paix qui s'appelle Greenham Common. En fait, c'était une lutte portée uniquement par des femmes contre l'installation de missiles nucléaires dans une base en Angleterre. Et donc c'était un camp qui s'était installé autour de la base et qui a fait irruption à l'intérieur de la base militaire à plusieurs reprises. Et vraiment, il y a eu ce qui est resté à travers l'histoire dans cette lutte, c'est la production de banderoles cousues par les femmes, d'œuvres très très belles, avec un soin vraiment sur la beauté, le message, des messages qui font appel à l'émotion. Et je trouvais que c'était une forme assez stimulante quoi, pour essayer de véhiculer des messages politiques. Et c'est pour ça que c'est vraiment une source d'inspiration majeure dans la production des banderoles en lien avec les messages que moi j'essayais de véhiculer.
Avec également un côté un peu almanach, hein, c'est bien cela, qui donne une rythmique à un des murs de la halle.
Oui, effectivement. En fait, avec un travail de terrain assez poussé, je me suis vite rendu compte qu'il y avait, si on voulait s'allier avec des espèces, c'est-à-dire respecter aussi leur autonomie, leur capacité à vivre, il y avait un besoin de respecter leur rythme et de se caler sur les rythmes du vivant. Et du coup, il y a tout un travail d'action qui ne peut pas se faire de manière, je dirais, aussi spontanée que la création d'une manifestation où il y a vraiment une exigence à respecter à la fois les besoins de discrétion, de repos, de reproduction des espèces. Et du coup, il y a tout un travail de temporalité, de dire telle action peut être faite en juin, telle action peut être faite en mai, etc. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette forme des almanachs, qui était un mélange qui a une tradition à la fois parfois d'almanach agricole, donc avec les dates des semis, etc. Et en même temps, l'inclusion dans ce calendrier de plein de textes pratiques, de textes de loisirs, de textes plus politiques. Et je trouvais que c'était une forme qui était assez, assez chouette.
Oui, c'est ça. On voit même quelques repères politiques militants hein, qui figurent dans ces almanachs au travers d'autres choses qui semblent beaucoup plus banales, finalement.
Oui, voilà. Donc, c'est les almanachs dont vous parlez, c'est des illustrations qui illustrent ces actions possibles. Et en même temps, il y a des espèces de dates anniversaires d'actions ou de formes de résistance qui, parfois, peuvent paraître un peu saugrenues. Je pense aux méduses qui pullulent et qui bloquent les filtres des centrales nucléaires, à l'anniversaire de lutte qui ont marqué les luttes contre les grands projets inutiles. Voilà, c'est ça qui revient, quoi.
Pour revenir au côté temporel, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'histoire et puis d'autres qui sont extrêmement récentes. Donc oui. C'est ça aussi que je trouve très intéressant. On est dans un objet qui sense mesurer le temps,
oui.
Mais qui, dans ces cas-là, l'explose aussi à plusieurs niveaux.
Pour la deuxième salle, il s'agit aussi d'actions. On voit un peu des expérimentations sur le territoire en images.
Oui, alors en fait, pour la deuxième salle, elle tourne beaucoup autour d'une espèce qui est le milan noir ou les milans noirs, qui sont des rapaces diurnes, donc de jour, qui font à peu près la taille d'une buse, donc qui font 150 cm d'envergure à taille adulte, et qui sont présents dans le Royan et aux alentours, beaucoup dans les vallées de basse montagne, le long des cours d'eau, qui sont des espèces migratrices qui traversent le Sahara et qui aussi ont été assez décriées dans la tradition. Moi, j'ai trouvé des textes qui les traitent de paresseux, de voraces, qui les accusent de voler le pain des enfants et de la bouche des femmes, avec vraiment une sorte de violence morale dans la description de ces animaux. Et aujourd'hui, c'est des oiseaux qui sont pas directement nuisibles, mais qui sont même d'ailleurs protégés parce que c'est des rapaces. Mais en fait, en termes moraux, j'ai beaucoup entendu cette expression de rat désert quand je demandais aux gens autour de moi. Il y a un peu cet équivalent de pigeon des campagnes, quoi, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, pour plusieurs raisons, c'est parce qu'ils se nourrissent beaucoup de déchets. Donc c'est un rôle écologique qui est super important, mais en termes moraux, c'est assez mal vu. Et aussi parce qu'ils ont l'habitude d'apporter des morceaux de plastique pour décorer leur nid.
Avec ça, vous avez fait un petit jeu aussi. Hein.
Oui. J'ai cherché un peu ces nids de Milan et je me suis dit d'une manière un peu, dans une manière un peu ludique, quoi. Est-ce qu'on pourrait s'allier symboliquement avec ces espèces qui sont décriées? Donc, dans ce texte, on les appelait pickpocket désert. Donc, moi, j'avais une espèce de complicité avec presque politique avec cette description. Je trouvais ça assez drôle qu'on passe autant de temps à dénigrer ces oiseaux, quoi. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait possible de trouver des mots d'ordre en commun Parce que c'est ça aussi l'alliance entre des Milans et des humains. Et donc j'ai inscrit des messages sur des morceaux blancs que j'ai déposés. Donc il y a eu tout un travail de prospection, de recherche de nids, plutôt du côté de l'Isère, de Romans. Là, d'essayer de déposer des messages autour des nids pour voir si éventuellement les Milans allaient sélectionner des messages pour essayer de créer cette image d'un oiseau qui porte une banderole et un message politique, quoi. C'est parce que moi, je vois ça. En fait, on pourrait dire que c'est simplement un comportement d'adaptation d'aller chercher du plastique pour le mettre dans son nid pour des raisons biologiques qui sont les leurs. Mais justement, il y avait une volonté d'essayer de politiser ces comportements d'opportunisme et d'adaptation de la part des Milans, quoi.
En ce qui concerne la troisième salle, c'est plus sous une forme d'adaptation.
La troisième salle, elle raconte plutôt des histoires de résistance des plantes aux herbicides, et notamment de résistance aux herbicides liés au maïs. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, en fait, lié aux différentes pratiques de l'agrochimie en France et aussi dans le monde, par la répétition de l'application des substances chimiques. En fait, il y a des espèces qui mutent et qui développent des résistances. Et ça, en fait, paradoxalement, c'est encouragé par les pratiques agricoles intensives elles-mêmes, c'est-à-dire que à disperser des produits chimiques de manière répétée, on finit par sélectionner en fait les plantes résistantes qui deviennent les seules concurrentes au maïs. Et là, il y a une surreprésentation parce qu'elles ont des cycles plus rapides ou qu'elles sont plus fortes, elles vont pouvoir complètement supplanter le maïs. Et donc il y a des exemples plutôt en Amérique du Sud et aux États-Unis où il y a des personnes, des paysans, des paysannes et des habitants qui, en lutte contre les OGM, qui se sont mis à disperser ces graines de plantes résistantes aux herbicides, créant aussi des pertes de rendement en fait chez des gros exploitants agricoles, ce qui fait qu'il y en a qui ont dû renoncer aux OGM, quoi. En France, c'est pas exactement le même contexte, mais la question des résistances aux herbicides, elle est de plus en plus présente, et je trouve que c'est la politiser, la mettre en scène, ça me semblait être intéressant.
Genre avec des métaphores entre la plante, l'humain, il y a toujours comme ça un va-et-vient dans l'exposition.
Oui, exactement. Oui.
Merci beaucoup Antoine Camus pour ces explications. Il ne reste plus qu'à rejoindre la halle et les trois pièces qui sont dédiées à votre proposition. Merci.
Merci.
Différentes expositions à découvrir au lieu d'art, trois. On fait le point en votre compagnie, Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Les heures d'ouverture et puis effectivement leur durée.
Oui, donc les deux expositions seront visibles du 16 janvier au 30 mars. Et alors en ce qui concerne la visitrine sur la place de la Halle, avec le travail de Grosantin, elle sera visible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en ce qui concerne toutes les œuvres exposées plutôt en salle, donc je vous rappelle un petit peu les horaires d'ouverture. C'est le mardi et vendredi de 16h à 19h, le mercredi et samedi de 9h à midi et de 14h à 18h. On est fermé les jours fériés. Et puis, on propose effectivement différents types de rendez-vous et d'activités à destination à la fois du tout public, à la fois aussi pour les groupes et les scolaires. Donc n'hésitez pas à soit nous contacter, soit retrouver toutes ces informations complémentaires sur notre site web www.lahalle-6-pontenroyant.org.